Chers frères et sœurs, bonjour. Hier soir dans cette salle, nous étions à quelques-uns et nous étions en face de chrétiens d'une église en Syrie, à Alep. Et j'étais impressionné par le témoignage de nos frères et sœurs dans la foi. On peut dire qu'eux étaient comme des flambeaux qui brillent dans un monde de ténèbres. La Syrie est un pays qui souffrent de la violence, d'une politique désastreuse, de lutte entre factions différentes. Et cette église se tenait là, avec des gens qui ne voulaient pas partir, qui voulaient rester comme témoins de la lumière, de la grâce de Dieu, briller comme des flambeaux dans le monde, nous exhorte l'apôtre Paul au chapitre 2 de sa lettre aux Philippiens. La population était est troublée par la guerre, traversée par toutes sortes de violences. Il y a des persécutions en Syrie, il y a des accusations, il y a des abus, il y a toutes sortes de choses. Briller comme des flambeaux dans le monde. Ce texte parle de gens malhonnêtes. Le texte que je vais lire dans un instant parle de gens malhonnêtes et mauvais. Il y a en Syrie des gens malhonnêtes et mauvais qui font régner la peur et la violence. Peut-être qu'au moment où l'apôtre Paul écrivait ces lignes, il y avait aussi, et sans doute, c'est même sûr, des gens malhonnêtes et mauvais. Peut-être que tout le monde n'est pas malhonnête et mauvais quand même dans ce monde, et heureusement. Mais nous croisons souvent de telles personnes. Et face à elles, brillons comme des flambeaux dans le monde. L'idée que Paul développe dans notre texte du jour est de faire contraste, de briller face à l'obscurité, à l'obscurantisme. Je vais donc lire les versets, chapitre 2 de la lettre de Paul aux Philippiens à partir du verset 14. Je le lis dans une traduction en français très, très courant. La parole de vie. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Ainsi vous serez innocents, on n'aura rien à vous reprocher. Vous serez des enfants de Dieu sans défaut, au milieu de gens malhonnêtes et mauvais. Parmi ces gens-là, vous brillez comme des lumières dans le monde, parce que vous apportez la parole de vie. Et ce texte m'a été proposé à l'occasion de la venue des flambeaux qui brillent comme des lumières dans le monde. Ce verset est votre mot d'ordre, briller comme des flambeaux dans le monde. Et c'est Jonathan qui m'a obligé à parler de ce texte. Quand même, hein. Des flambeaux, nous dit ce texte, des lampes, des luminaires. Je ne veux pas dire des lampadaires parce que bon, pas forcément très flatteur. L'image est simple. Jésus l'avait d'ailleurs déjà utilisé dans le sermon sur la montagne, vous le savez, vous êtes la lumière du monde, a-t-il dit, en utilisant un mot, non pas une lampe, mais simplement la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Je vais prendre ce petit extrait du sermon sur la montagne. Je poursuis donc la lecture, chapitre 5, pour ceux qui souhaitent le prendre sous les yeux. Au verset 14. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, un flambeau, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Et là, nous sommes très proches de notre texte de l'apôtre Paul, briller comme des lumières dans le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire briller ? Personnellement, certains de mauvaises langues pourront dire « je ne suis pas une lumière » et pourtant, nous devons briller. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et Jésus donne déjà une première explication. « Alors les autres verront le bien que vous faites et ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. » Briller, être lumière, d'après ce petit texte de Sermon sur la montagne, ça veut dire faire le bien. Alors, les autres verront le bien que vous faites. Alors, que veut dire notre texte? Il utilise la même image, briller, mais qu'est-ce que cela veut dire, être flambeau dans le monde, dans notre texte de l'apôtre Paul? Paul donne deux idées maîtresses pour définir ce qu'est notre lumière, ou ce que nous sommes en tant que flambeau, en tant que lampe dans ce monde. Premièrement, nous sommes enfants de Dieu. Vous serez des enfants de Dieu, sans défaut. Je reviendrai sur le sans défaut tout à l'heure. Et nous sommes porteurs de la parole de vie. Vous apportez la parole de vie dans le texte que j'ai lu. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes porteurs de la parole de vie. Et c'est ainsi que nous brillons comme des flambeaux dans le monde. Il y a dans ce texte d'autres choses, vous l'aurez remarqué avec moi, et ces autres choses sont des précisions de choses qui gêneraient la lumière, qui l'empêcheraient de briller. Pour bien briller dans ce monde, il nous faut éviter les plaintes, les discussions, sous-entendu les discussions oisives, oiseuses, les reproches dont nous pourrions faire l'objet, le mélange, être sans mélange, et ne pas avoir de défauts. Dans la syntaxe ou dans le vocabulaire grec, tous ces mots que j'ai dit sont des mots négatifs. Alors on peut les traduire par, c'était le cas dans la traduction que j'ai lue, par l'innocence, par d'autres mots comme la pureté, etc. Mais en grec, ce sont seulement des notions négatives que nous avons. C'est pour ça que je retiens comme définition principale de la lumière, des flambeaux que nous sommes, le fait que nous sommes enfants de Dieu, ce qui est éminemment positif, et que nous sommes porteurs de la parole et porteuses de la parole de vie, ce qui est éminemment positif aussi. Enfants de Dieu. Lumière, flambeau dans le monde, égale enfant de Dieu, dans un premier temps. Ça veut dire que nous proclamons la paternité de Dieu sur nos vies. Jésus nous a enseigné la prière que nous récitons tous dans le monde entier, qui commence par ces petits mots, « Notre Père ». C'est bien que nous sommes enfants de Dieu. Et le mot « enfant » dans le texte que Paul utilise ici, c'est ce même mot que Jean va utiliser quand il va s'adresser à ses lecteurs et qu'il va leur dire, on traduit parfois « mes petits-enfants », ce terme plein d'affection. Donc nous sommes les objets de l'affection du Père Céleste. Ce mot nous le dit. Et nous avons pour le Père Céleste également de l'affection, de l'amour. C'est cet amour-là qui nous pousse à appeler Dieu « Papa ». C'est une traduction possible du mot « Abba » araméen, qui est cité par l'apôtre Paul encore lui, quand il parle de l'action de Dieu dans nos vies et de l'Esprit de Dieu dans nos vies, qui nous fait appeler Dieu « Père, Abba ». Vous voyez, c'est que nous soyons appelés ici, dans notre texte, enfants de Dieu, cela ouvre à toute cette relation d'affection, d'une filiation heureuse et paisible avec notre Père Céleste, que nous appelons ensemble notre Père Céleste. Si on prend peut-être une nuance hébraïque, et Paul était un juif et il parlait hébreu, enfant de, ou fils ou fille de, dénote une appartenance et une caractéristique. Être enfant de Dieu, ça veut dire que nous sommes sous l'empreinte de Dieu, sous l'emprise de Dieu, que nous sommes marqués de son empreinte, que nous sommes membres de son peuple, que nous appartenons à Dieu et qu'il a une influence déterminante sur nos vies. Être enfant de Dieu n'est pas qu'un statut, n'est pas qu'une appartenance, une carte d'identité céleste que nous aurions, c'est aussi une vie sous l'action de l'Esprit de Dieu sous la paternité bienfaisante et agissante de Dieu dans nos vies. Dans notre vie intérieure, tout d'abord, souvenons-nous de ce que Paul, encore lui, va dire aux chrétiens de Rome. Il va leur dire « Soyez renouvelés dans votre manière de comprendre les choses, dans votre intelligence, dans votre psychologie, que dirions-nous aujourd'hui, dans votre être intérieur, dans votre vision du monde, dans votre vision de l'humain. » Dans votre vision de la société, Dieu renouvelle toutes ces choses. Romains chapitre 12, au premier verset. Être enfant de Dieu, c'est non seulement avoir porté ce regard nouveau sur toute la réalité que nous sommes et qui nous entoure, mais c'est aussi avoir une relation filiale, je l'ai dit. C'est prier Dieu, c'est l'écouter, écouter son esprit qui place en nous ces voix que nous entendons, c'est lire la Bible et en faire notre ligne de conduite. Être enfant de Dieu, c'est être sous cette action du Saint-Esprit qui produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la fiabilité ou la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Là, je viens de citer ce que Paul, encore lui, explique aux chrétiens de Galatie, au chapitre 5 de sa lettre aux Galates. Voilà ce qu'est être une lumière qui brille, être enfant de Dieu dans ce monde. Deuxième élément de définition, vous êtes, dit l'apôtre Paul, porteur de la parole de vie. La traduction que j'ai lue est... peut s'entendre de cette manière, vous apportez la parole de vie. Ce n'est pas que nous soyons des porteurs égoïstes, mais c'est que nous sommes des porteurs généreux qui partageons ce que nous portons, qui le donnons. Le chrétien, la chrétienne, a reçu l'Évangile. Il l'a pris pour lui tout d'abord, parce qu'il ou elle en avait besoin. Il avait besoin du pardon de ses fautes. Et nous en avons toujours besoin. Le chrétien ou la chrétienne a été adopté dans la famille divine, reçu comme fils ou comme fille par le Père céleste. Le chrétien, la chrétienne bénéficie d'une grâce qui vient de Dieu pour une vie qui se renouvelle, qui se régénère de jour en jour. Le chrétien, la chrétienne, sont porteurs et porteuses de l'Évangile, à ce sens. D'abord, parce qu'on en a besoin. Et nous en avons toujours besoin. Je ne sais pas si vous êtes fait du même bois que moi. Mais cet Évangile, personne ne peut dire, bon, ça y est, maintenant je suis soigné, je n'en ai plus besoin. Sans arrêt, il faut revenir au pied de la croix. Sans arrêt, il faut revenir... parfois penaud devant le Seigneur et reconnaître ce qu'il y a à reconnaître devant le Dieu parfait et tout-puissant et plein d'amour pour nous, mais aussi devant le Dieu saint et juste. Le chrétien est porteur de l'Évangile, ça veut dire aussi qu'il l'incarne. C'est une notion qui nous est chère, l'incarnation. Nous parlons de l'incarnation pour désigner Jésus, Dieu incarné. Mais savez-vous que l'Évangile a besoin d'une autre incarnation, celle que nous portons, nous devons être des évangiles incarnés, au sens où nous en sommes au bénéfice, oui, mais aussi au sens où nous le donnons à d'autres. Nous devons imiter Jésus-Christ et de la sorte incarner l'Évangile. Nous devons mettre en œuvre l'action de l'Esprit de Dieu et de la sorte incarner l'Évangile. Nous devons aimer Dieu, aimer notre prochain et de la sorte incarner l'Évangile. Le chrétien a reçu l'Évangile, il en est porteur. La chrétienne apporte l'Évangile, elle en est porteuse, pour que d'autres vivent cet Évangile et le reçoivent à leur tour. recevoir, incarner, apporter. Voilà une autre manière d'être des flambeaux dans le monde. Alors personnellement, je ne sais faire qu'un nœud, je crois, ou deux. Et trois avec le nœud de cravate, oui, quand même. Et tout le monde ne sait pas faire un nœud de cravate, quand même. Je rends hommage à votre travail. Vous avez expliqué tout ce que vous avez fait tout à l'heure, chers amis Flambeau et Claire Flamme. L'apôtre Paul va aussi dans le concret, même s'il est très résumé ici. Ce sont des choses concrètes, et c'est pour ça que je cite, par exemple, les nœuds parmi d'autres choses qui pourraient être citées. Si nous n'avons pas une foi concrète, nous ne sommes pas des flambeaux. Nous sommes une théorie, nous sommes des braves gens peut-être. Une lumière, un flambeau, c'est une lampe qu'on voit. Soyons concrets dans notre foi, soyons cohérents. Alors, voilà la définition de briller comme des flambeaux, être enfant de Dieu, être porteur de la parole de vie que j'ai donné, à laquelle j'ai donné, l'expression j'ai donné pour synonyme, l'évangile tout simplement, parole de la vie que Dieu nous donne. Comment mal briller? Vous apprenez ça, comment mal, non? Vous apprenez que comment bien, vous, hein, oui. Comment mal briller? Mais Paul là donne des recettes, il donne cinq manières de mal briller. D'abord, se plaindre. Alors, en grec, c'est rigolo, parce que c'est un verbe, alors là, j'ai dû regarder dans le dictionnaire, je me lis, onomatopéique. Ça fait bien de dire ça, hein. Je l'ai regardé dans le dictionnaire, j'ai aucun mérite. C'est gongoudzo, en grec. On a l'impression que le mot lui-même, il dit, sans qu'on le comprenne, des râleurs. Des rouspéteurs, des gens qui marmonnent, pardon, dans leur barbe. En France, on connaît hein, ce sport-là. Hein. Je ne suis pas le dernier, d'ailleurs, à être râleur, j'avoue. J'ai une petite barbe, donc ça va, je peux marmonner dans ma barbe. Mais attendez, si on n'a pas le droit de se plaindre pour bien briller, cela veut-il dire qu'on n'a pas le droit de s'exprimer ? Pas le droit de dénoncer des choses qui devraient l'être, pas le droit de défendre des droits. Si on a le droit, Jésus lui-même a fait entendre sa voix à plus d'une reprise d'une manière assez négative. Mais vous aurez compris qu'un grand râleur ne va pas avec un bon chrétien. Il peut y avoir cet esprit perpétuellement négatif, toujours à trouver le mauvais côté des choses, toujours à trouver là où le bât blesse, toujours à trouver le petit détail qui lui ne va pas alors que l'ensemble va. On a parfois parmi nous, et c'est, je ne suis pas exempt, hein, ce côté-là. Bon, peut-être pas tout le monde, je sais. Faites tout sans vous plaindre, sans râler. Nous allons bientôt marcher sur le chemin de Compostelle, à faire quelques dizaines de kilomètres par jour. Nous sommes 5 à partir. Et là, on verra qui est râleur et qui ne l'est pas. Attention à ne pas développer cet esprit négatif qui gêne notre lumière dans ce monde. Sans discussion, deuxième manière de mal briller, vous prenez les notes, les flambeaux, hein, deuxième manière de pas briller, les discussions. Ah, Jean-Marc, on n'a pas le droit de discuter. Mais c'est pas possible. Faut-il s'abstenir de réfléchir aussi tant qu'on y est? Peut-être devrait-on traduire discussion futile, discussion oiseuse. Discutaillerie. Le mot en grec peut avoir les deux sens, un sens tout à fait banal, mais aussi un sens négatif. Vous savez, c'est cette propension que certains d'entre nous ont, et par égard pour eux, je ne citerai pas de nom, à dire « oui mais ». Vous connaissez cette expression « oui mais » ? Ou alors vous avez des gens qui vous font un compliment et vous attendez le « mais » qui va venir, parce qu'on sait très bien que le compliment, c'est l'antichambre. C'est l'escabeau pour aller jusqu'au « mais ». Il y a des gens qui recherchent l'opposition, qui échafaudent des systèmes de raisonnement. Il peut y avoir là beaucoup de choses, finalement. Oui, je nous ai un peu caricaturé, moi le premier, hein. Mais on a compris ce que Paul dit. Paul n'interdit pas du tout, sinon pourquoi il aurait écrit toutes ces lettres? Pourquoi il aurait un tel dialogue, par exemple, avec les chrétiens de Corinthe, où il y a un échange de correspondance très nourri? Non, Paul accepte la discussion. Il ne s'agit pas d'être quelque part écrasé sous un dogme ou sous des penseurs qui pensent à notre place. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit des discutailleries. Il s'agit des oui-mais que nous servons un peu trop souvent peut-être. Dans 1 Timothée, d'ailleurs, l'apôtre Paul joint cette discussion à la colère. Et là, on comprend mieux la nuance qu'il apporte. Il ne s'agit pas juste de discuter, il s'agit de protester, d'opposer et même d'être véhément, d'avoir de la colère. Cela n'empêche donc pas de rechercher la précision dans notre pensée au cours d'un dialogue, d'une discussion, la rigueur, la profondeur. Il ne s'agit pas non plus d'interdire de poser des questions lorsque nous avons ces belles heures d'études bibliques, par exemple. Je ne veux pas vous dire non. Pas de discussion. Non, il s'agit bien de discuter entre nous. Mais c'est cet état d'esprit qui est décrié par l'apôtre Paul. Les autres adjectifs dans le texte de Paul ont aussi une forme négative. Sans reproche, sans mélange et sans défaut. Alors, sans reproche et sans défaut, cela nous renvoie à la perfection. Sans mélange, ça nous renvoie au fait d'être entier. Je me souviens d'un slogan d'un certain homme politique qui aujourd'hui n'est plus guère actif, qui disait « la tête haute et les mains propres ». Vous voyez à qui je fais allusion peut-être, peu importe. Il s'est avéré que c'était une prétention illusoire, que peut-être qu'il avait la tête haute, mais qu'il n'avait pas les mains propres. Ne tombons pas dans ce genre de prétention en ayant cette idée que Paul nous demande pour bien briller dans le monde d'être sans reproche et sans défaut. N'allons pas tomber dans l'orgueil qui consisterait à nous dire « moi, ça fait des mois que je ne pêche plus, je suis parfait, regardez-moi ». Non, non, non. Mais en même temps, il y a d'autres choses à fuir aussi. Fuyons la médiocrité. Fuyons la mollesse face aux mauvais comportements qui viennent polluer notre vie. Fuyons l'ignorance qui fait que nous nous conduisons avec parfois beaucoup de maladresse et d'erreur, parce que nous n'avons pas pris le temps d'écouter Dieu, de lire sa parole. Fuyons la nonchalance. Ouais, bon, c'est écrit dans la Bible, mais bon. Alors, ce que je viens de faire là, ça vous fait sourire, du moins certains. Nous ne le ferons jamais comme je viens de le faire, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Comment traitons-nous les choses qui nous sont dites dans la parole de Dieu? Parfois avec nonchalance. Et je ne fais le procès de personne. Nous sommes tous, me semble-t-il, en tout cas je suis, à lutter contre cette médiocrité, cette nonchalance, cette mollesse. L'insouciance de même. Ce que la Bible nous dit, il y a parfois des messages très, très prenants, mais on les traite par-dessus la jambe, avec insouciance, comme si on venait de lire une recette de cuisine. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul écrit une foi sans reproche, une foi sans défaut. C'est ce à quoi nous devons viser. Jean-Louis et Yvonne montent dans leur Twingo pour aller au culte. Leur Twingo prend un peu d'âge. Et au moment où Jean-Louis actionne le démarreur, elle ne démarre pas. Premier juron de la journée. Insulte à l'égard de la voiture, ce qui, du point de vue mécanique, est très peu efficace. Finalement, la voiture démarre et une voiture grille à la priorité au carrefour non loin de chez lui, de Jean-Louis. Cinquième juron, je ne vous ai pas cité les trois autres. Il roule derrière une personne qui, évidemment, roule trop lentement. Il faut dire qu'il aurait peut-être pu partir un peu plus tôt. Critique. Juron. Injure. Il arrive, finalement, à dépasser cette personne et grille un feu, ou passe un feu à l'orange. Vous savez ce qu'on appelle l'orange mûr. Et percute une voiture qui vient dans l'autre sens. Et qui est le conducteur de cette voiture ? Son voisin qui vient de la boulangerie. Bon là, je n'ai pas parlé d'Yvonne par égard pour la gente féminine et pour ménager ma sortie. Jean-Louis n'a pas brillé. Parce qu'il a laissé libre cours à ses défauts. Je ne vous dis pas comment il va vivre le culte après tous ces événements, s'il y va d'ailleurs, puisque sa voiture est emboutie. Jean-Louis a laissé trop de place à ses défauts. Il a été trop indulgent à l'égard de ses défauts. Trop insouciant, trop nonchalant, trop ignorant. Vous serez des enfants de Dieu sans défauts. Vous savez, quand on dit dans nos livres d'histoire que le chevalier Bayard était sans peur et sans reproche, on ne prétendait pas qu'il était parfait. On disait juste, voilà, ça c'était quelqu'un qui est allé jusqu'au bout de ses convictions, qui a tenu, qui a affronté des choses difficiles. Quand nous voyons hier soir nos frères et sœurs d'Alep assis dans cette église, pleine à craquer. Ils étaient sans reproche. Personne de nous ne va penser qu'ils étaient parfaits. Mais dans ce contexte, ils ont été, allez, on pourrait le dire, impeccables. Ils ont été formidables. C'est ce que j'avais envie de leur écrire. Soyons des chrétiens sans reproche. Sans défaut, autant que nous le pouvons. Et si nous devons constater des défauts, et bien sûr que nous n'allons pas arriver à traduire cet ordre, cette parole complètement dans nos vies, mais ne nous contentons pas de dire « ouais, bon, je ferai mieux la prochaine fois », essayons de retravailler un petit peu, de faire mieux, mais d'y travailler, de demander pardon à Dieu s'il faut, à un tel ou un tel s'il faut aussi. La dernière idée... J'ai joint, pour les flambeaux qui prennent des notes, donc sans défaut et sans reproche, je les ai mis un peu ensemble. Non, parce qu'après, ils vont être perdus. Le dernier point, c'est sans mélange. On pourrait dire pur. Il y a un petit texte intéressant de l'apôtre Paul, toujours aux Romains, qui dit « Soyez sages pour le bien et purs pour le mal ». Je traduis littéralement. C'est-à-dire pur face au mal, c'est-à-dire ne laissez pas le mal se mélanger dans votre vie. Quoi. Garde-nous du mal, dit le Notre Père, ou délivre-nous du mal plutôt. Une autre petite allusion historique, les rois d'Israël étaient, vous savez, après le schisme, dans des périodes très troublées, il y a une petite phrase qui revient, pour décrire les rois, les rois pour les connaisseurs, c'est plutôt les rois de la partie nord, après le schisme, le royaume du nord, comme on dit. Ils n'avaient pas le cœur entier pour Dieu. Pas le cœur entier. Et c'était bien là qu'était le problème. Non pas qu'ils étaient entiers contre Dieu ou qu'ils étaient forcément des gens terribles. Il y en a certains, oui, mais pas tous. Mais ils n'étaient pas entiers. Et c'était là qu'était le problème. N'y a-t-il pas ce problème chez nous aussi ? Tu viens à l'église, tu chantes, tu participes à la vie de l'église. C'est bien. Ton cœur, mon cœur, est-il entier pour le Seigneur ? Pas de duplicité. Pas d'hypocrisie, pas de dissimulation, pas de double vie, un cœur entier, un cœur, une foi sans mélange. Alors voilà les manières de mal briller. Mais on va, faut pas les oublier parce que je pense que nous, on est tous concernés. Je conclue très rapidement. Il ne faut pas que dans ce monde nous brillions par notre absence. Nous devons briller par notre présence, par notre appartenance à notre Père céleste, à Dieu, par l'amour que nous avons pour Dieu et pour notre prochain, pour les hommes, les femmes et les enfants qui nous entourent, et en étant porteurs de la parole de vie, c'est-à-dire en portant nous-mêmes dans nos vies la grâce de Dieu et en l'apportant à d'autres. Prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur, tout d'abord de nous avoir donné à nous ta parole de vie. Nous te prions, Seigneur, parce que tu nous le demandes, que tu nous aides à briller dans ce monde. Tout d'abord en vivant pleinement la relation avec toi, notre Père céleste, l'appartenance à ta famille, et puis aussi en incarnant l'Évangile dans notre vie de tous les jours et en le donnant à celles et ceux qui nous entourent par le geste et par la parole. Merci Seigneur de nous garder des pièges que nous avons vus qui gêneraient cette lumière. Nous nous confions en toi, Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Amen.